J'aimerais ce soir parler sur rétablir la culture du témoignage. Vous savez, nous sommes des chrétiens, des croyants, et nous avons tous été le fruit un jour des personnes qui ont prié pour nous. Nous avons été un jour au bénéfice des personnes qui ont même témoigné de l'amour du Christ pour nous, que ce soit de manière verbale, que ce soit même sur le comportement, des gestes, des actions. Et la vie chrétienne, c'est ça, c'est prier, mais c'est aussi témoigner. Et ces deux aspects fondamentaux, on ne veut pas les négliger. Et peut-être parfois, c'est ça qu'on finit peut-être par... On se dit c'est basique et on finit peut-être même par les négliger. Et dans notre vie, on se contente soit peut-être même de prier et de faire que prier, ou alors que de témoigner sans prier. Et on néglige ces deux parties qui finalement se complètent l'un et l'autre. Et nous sommes ces fruits-là. Si un jour vous êtes là, assis devant moi, si un jour vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, si un jour vous pouvez être appelé aujourd'hui chrétien, enfant de Dieu, être au bénéfice du salut, au bénéfice de prodiges, de miracles, de tant de bénédictions, c'est parce qu'un jour, au moins une seule personne a prié pour vous et au moins une même personne aussi ou une autre personne vous a parlé de Christ, du salut. Et c'est vraiment des points qu'on ne peut pas négliger. Nous qui croyons encore aujourd'hui, nous qui avons donné notre vie à Jésus-Christ, c'est notre mandat. Et c'est ce que Jésus nous dit dans Actes des Apôtres, dans Actes 1, verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Et nous sommes appelés à être ces témoins. Ce soir, je voudrais aborder particulièrement cet aspect du témoignage à la lumière d'un passage bien particulier pour montrer que témoigner, c'est aussi aimer. Ce passage se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 4. Au verset 4 jusqu'au verset 42. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, Jésus-Christ, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure, c'est-à-dire midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. » La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi, qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que demandes-tu ? Ou de quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. On va sauter les passages. Verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le retrouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Amen. Pardonnez-moi. Pour vous remettre dans le contexte, la Judée, donc Jésus et ses disciples, donc devaient traverser pour aller jusqu'en Judée. Et la Samarie se trouvait entre les deux. Le peuple juif et le peuple samaritain, ce n'étaient pas des peuples qui s'aimaient beaucoup. C'est un peu comme OM-PSG. Et d'habitude, les Juifs contournaient la région de la Samarie pour pouvoir faire ce trajet-là. Pourtant, en fait, la ligne la plus directe, c'était la Samarie. C'était la LGV de l'époque. Mais on préférait plutôt contourner tout le pays pour arriver à destination. Et là, c'est Jésus qui traverse la Samarie avec ses disciples. Vous savez, nous, on a notre manière de voir les choses. Souvent, quand on témoigne, on est souvent un peu bloqué par beaucoup de, je dirais, de facteurs. Et pourtant, on est capable de témoigner de tellement de choses. Lorsque, par exemple, on parle de choses que l'on aime, comme le sport, comme les gens célèbres que peut-être on a en admiration, les musiques qu'on aime énormément, on dit « oui, cette musique, elle est extraordinaire » et on arrive à rendre témoignage de ces choses-là, de dire « ouais, le sport, c'est bien pour la santé, il faut faire des activités physiques, ça rend une meilleure santé. » Et lorsqu'on veut parler de Jésus, et surtout dans notre contexte en France, on est un petit peu dans ce côté, peut-être même un petit peu honteux des choses. Il faudrait cadrer les choses, surtout on est dans la laïcité où on a un peu honte, on a des règles, des normes, et on a peur du rejet aussi. Et toutes ces choses font que des fois, en fait, on arrive à aussi négliger ce témoignage. Et pourtant, Jésus est là, et il arrive, et il est contre la conception naturelle. Il va s'arrêter et il va parler à une femme qui n'est pas du peuple juif. Mais en plus de ça, à une femme samaritaine. Au verset 9, il est écrit, la femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Tout le monde est surpris. Tout le monde est là. Il dit, « Mais comment toi qui es juif, tu me parles, moi qui suis samaritaine ? Nous qui sommes un peu OM-PSG, nous qui on s'adresse pas la parole, on se côtoie pas. » Dans notre monde actuel, un petit peu, on est un peu ça, on dit, nous, on est un peu dans la norme des gens chrétiens, pleins de foi, très saints et très sanctifiés, auxquels, en fait, même les gens, je dirais, du monde avec des mauvaises valeurs, on ne les côtoierait pas. Merci beaucoup. Et Jésus casse les codes. Jésus casse les codes. Pourquoi ? Parce qu'il y a le salut qui est là. Il y a un plan qu'on ne comprend pas. On se met à la place, on est là, on est Jésus, et on regarde la scène. on oublie tout le reste, on oublie le spoil et on marche petit à petit dans l'histoire et on va voir les choses. Première chose qu'on observe, c'est que Jésus est fatigué. Nous, on voudrait avoir les mêmes, les bonnes dispositions chaque jour. Seigneur, c'est bon, je suis en forme, je suis au taquet, je suis motivé, je vais aller témoigner. On a organisé l'équipe d'évaluation, on y va, on va distribuer les prospectus. Il y a la marche pour Jésus, on y va, on est à fond. Et parfois, en fait, ce n'est même pas comme ça. Parfois, Dieu va nous tendre une perche, une occasion, dans un moment où, en fait, on ne s'y attend pas. Jésus, fatigué, s'assoit. Les disciples ne sont pas là. Et une femme arrive et va lui parler. Il faut nous saisir un petit peu de ces moments où Dieu nous tend la perche, où il faut parler de son amour. Casser les codes, aller au-delà des circonstances, de ce que l'on peut voir. Vous savez, nous sommes appelés à aimer nos ennemis. Et si on se replace à l'époque, les Samaritains étaient les ennemis des Juifs. Et Jésus a témoigné de l'amour en lui parlant. Témoigner, c'est aimer. Verset 28-29. Alors la femme, ayant laissé la cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Alors que Jésus parle avec la Samaritaine, ce n'est pas une grosse discussion, elle va le partager avec la ville dans laquelle elle habite. Vous savez, ce n'est pas anodin que la femme samaritaine vienne puiser de l'eau à midi. La sixième heure, midi, c'est le temps où en fait, il fait le plus chaud. Normalement, quand on va puiser de l'eau, à l'époque en tout cas, aujourd'hui on va acheter dans un supermarché, mais en tout cas à l'époque, lorsqu'on allait puiser de l'eau, c'était tôt le matin à la fraîche, parce que c'était fatigant, c'était lourd et il fallait faire tout un trajet. Et elle a décidé de puiser de l'eau à midi, au temps le plus chaud, pour éviter les gens, parce qu'elle avait une réputation, et pas une bonne réputation. Elle avait eu 5 maris, et la personne qu'elle est, avec qui elle était actuellement à l'époque, n'était pas son mari. Et ça, tout le monde le savait. Elle en avait honte. Et pour éviter un petit peu les pinaillements, pour éviter un petit peu la honte, elle évitait un petit peu ces personnes-là. Et elle allait là où il y avait le moins de fréquentation. Le temps où il y avait le moins de fréquentation. Et ce qui est étonnant, c'est que suite au contact et à l'entretien qu'elle a eu avec Jésus, elle est celle qui a dit « Voici celui qui a dévoilé ma vie ». Et elle est rentrée dans la ville, à Sichar, pour parler à ceux dont, au début, elle avait, je dirais, été persécutée moralement, auxquels, en fait, elle avait les personnes qui avaient un mauvais regard sur elle à cause de sa réputation. Elle a eu le courage de parler de ces choses-là. « Voici celui qui m'a dit ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ ?» Vous imaginez-vous dans cette situation où vous avez une mauvaise vie, qu'importe le péché caché, et puis allez dire en fait à toute votre famille, qui peut-être avec qui vous vous entendez pas très bien, vos collègues de boulot ou plein d'autres choses, et de dire voici, il y a quelqu'un qui m'a révélé toute ma vie, et suite à ça, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus-Christ. Peur de perdre en crédit. Et elle allait au-delà de ça. Et souvent, ça, c'est un des blocages qu'on peut avoir, c'est de dire, mais est-ce qu'on pourra me croire ce que j'ai vécu? Est-ce qu'on peut croire ce qui s'est passé? Parce que ma réputation, elle est au-dessus. Elle est plus grande que moi. Les gens, quand ils voient la femme samaritaine, ils voient la femme aux 5 maris et à l'homme avec qui elle est. La personne qui a une réputation horrible. Et on peut être enfermé dans cette situation dans laquelle, en fait, on a vécu quelque chose d'extraordinaire, mais la chose que l'on a ne colle pas. Qui pourrait croire que j'ai peut-être rencontré le Messie. Mais elle a osé, parce qu'elle ne pensait pas du « quand dira-t-on ? » Et nous, on est là en « quand dira-t-on ? » Mais s'ils ne me croient pas, et si je n'arrive pas à les convaincre ? Et si les gens, ils me prennent pour un fou ? Et on oublie parfois que lorsqu'on témoigne, on ne parle juste des choses que l'on a vécues, des choses que Dieu a fait dans notre vie. Mais que ce n'est pas à nous de convaincre, c'est le Saint-Esprit. Et que nous, notre job, c'est de juste parler des choses que l'on a vécues, que les choses que l'on a entendues. Et c'est ce qu'ont fait les évangélistes. Jean le raconte bien, il le dit bien ainsi, dans la première épître de Jean, il le dit ainsi au verset premier, au chapitre premier, au verset premier. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Les évangélistes ont fait ça. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Ils ont juste tout simplement raconté ce qu'ils ont vu, entendu, pour certains touché. Vous savez, témoigner, ce n'est pas juste raconter une histoire centrée sur nous. J'ai entendu un petit peu ce parallèle et je la trouve vraiment très pertinente. Souvent on dit « Ouais, le Seigneur a fait ça pour moi », comme si en fait on était le personnage principal de notre film, de notre série, de notre histoire. Et rendre témoignage, c'est juste en fait dire « Non, mais c'est Dieu le personnage principal. Non, on n'est que les seconds rôles derrière. » Et les seconds rôles sont juste là pour mettre en valeur Dieu, le rôle principal, l'acteur principal, le personnage principal. Parce que nous, ce qu'on regarde dans les films, c'est le personnage principal, les personnages principaux, leur histoire, leur aventure. Et lorsque nous témoignons, nous rendons la place qu'il faut, la place première à Jésus-Christ, la place première à Dieu. Dieu dans notre vie. Nous, on croit que lorsqu'on parle de notre vie, de notre histoire avec Dieu, on parle de nous et de Dieu qui agit sur nous, avec nous, pour nous. Mais lorsqu'on témoigne, il faut peut-être se mettre dans l'optique de dire qu'en fait, on est en train de parler de Dieu et qu'en fait, nous, on a juste été là pour dire Dieu, il a été grand et c'est un grand privilège que lui ait porté son regard sur moi. Et je veux juste lui donner toute l'importance qu'il faut. Et de manière simple. On se pose trop de questions. Et parfois, on veut tellement convaincre qu'on a tendance peut-être un petit peu à être à gonfler, à un petit peu exagérer les événements. Oui, j'étais en PLS, complètement HS, 56 degrés de fièvre, j'en pouvais plus. Et puis d'un coup, le Seigneur m'a guéri. Non, c'est peut-être juste 40 degrés. Mais le miracle est là quand même. Dieu t'a guéri, t'a relevé. Que ce soit 56 ou 40 degrés. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Et on est juste là pour mettre en valeur Dieu. Lorsqu'on se rassemble, lorsqu'on chante les louanges, on n'est pas là pour dire que un tel chante bien, un tel chante bien, un tel prie bien, un tel fait bien la musique. Ou non, on est là pour dire « Dieu, au travers de ces chants, je te glorifie. » Pour les gens qui sont là et qui sont peut-être pas, qui n'ont pas l'habitude forcément des églises ou qui ne connaissent pas forcément Christ, mais qui lorsqu'ils rentrent dans ce lieu, peut-être, ok, ils voient de la bonne musique, voient des bons chants, mais lorsqu'ils voient tous ces gens tout autour de nous qui chantent à la gloire de Dieu de tout leur être et de tout leur cœur, sont touchés et disent « Mais comment cela se fait ? Comment cela se fait qu'il y a des gens qui chantent, qui vont au-delà de leur timidité, qui vont au-delà même de leur compétence de chanter juste, de chanter de manière extraordinaire et de leur « plus belle voix » entre guillemets, chantent ces paroles à la gloire de Dieu. Et on leur donnerait envie au travers du fait que lorsqu'on rend ce culte à Dieu, on rend la gloire à Dieu à tel point que les autres puissent voir que ce Dieu est réel. Vous savez, dans mes premières années de conversion, même en fait avant de me convertir, je côtoyais l'Église et j'avais cette image un petit peu très religieuse et traditionnelle que l'Église catholique renvoyait un petit peu. Et lorsque j'ai commencé à rentrer dans l'Église, les dimanches matins, c'était pas grand monde, c'était quarantaine de personnes, cinquantaine de personnes. C'était assez simple, batterie, piano et un seul conducteur de chant. Ils étaient tous là à chanter Dieu de tout leur cœur. Mais j'ai dit, mais comment on peut chanter quelqu'un? Comment peut-on chanter quelqu'un? Comment pouvons-nous chanter la gloire de quelqu'un dont on ne voit pas? Comment pouvons-nous chanter la louange de quelqu'un qui, pour moi, je ne le vois pas actuellement? Je ne le vois pas au travers de ma vie. Mais ces gens étaient là, ils priaient de tout leur cœur, des prières que je ne comprenais pas, une telle authenticité dans leur cœur, dans leur manière de prier. J'ai dit, c'est pas possible. On ne peut pas faire Spielberg comme ça. On ne peut pas refaire des films et faire semblant de prier comme ils ont prié. Et j'ai été touché. C'était quelque chose qui était réel dans leur vie. Et je prie que Dieu soit vraiment réel à chaque instant dans notre vie. Oui, on dit, oui, nous, ce n'est pas une religion. Oui, nous, ce n'est pas des traditions. Nous, c'est une relation. Nous croyons en Jésus-Christ, un Dieu vrai et véritable. Mais est-ce que cette réalité est en nous vraiment? Lorsqu'on vient le dimanche matin, lorsqu'on vient le mardi soir, lorsqu'on se lève le matin, est-ce que Jésus est vraiment au centre de notre vie, le personnage principal du film de l'humanité? Seigneur, que ma prière, mon chant, tout mon être entier soit intentionnel pour toi, pour ta gloire, afin que les gens voient. Oui, nous sommes la lumière du monde et que les gens voient que cette lumière du monde, elle fixe le projecteur vers celui qui est digne, celui qui est grand, Jésus-Christ. Si on regarde bien l'histoire de l'entretien de la femme samaritaine avec Jésus-Christ. Jésus n'a pas accompli de prodige, dans le sens, il n'a pas accompli de guérison physique, pas de multiplication de pain, pas de multiplication de poissons, pas de démons chassés. Il a tout simplement révélé l'état de cette femme et lui a témoigné du royaume des cieux. Il a tout simplement dit, tu as raison. Tu as raison de dire que, en fait, tu n'as pas de mari. Tu as eu 5 maris et celui avec qui tu es n'est pas ton mari. C'était une parole de connaissance. Non. Et cela l'a convaincue. Elle a été percutée par le fait qu'un homme juif révèle sa vie. Lui parle des choses de Dieu. Ne serait-ce pas le Messie? Et cela a suffi. Elle aurait pu en fait être estropiée dans le puits, avec un grand courage pour aller puiser de l'eau, estropiée, et venir, et voici celui qui m'a guéri. Mais non, c'était juste une parole qui a révélé son état, qui a causé sa mauvaise réputation. Et de cela, elle est juste, sans calculer, avec une simplicité, une authenticité auprès des gens qui la regardaient mal. Sans calcul ni rien, voici celui qui a révélé ce que j'ai fait. N'est-il pas le Christ ? On ne sait pas quel impact on aura quand on va témoigner à gauche, quand on va témoigner à droite, quand on va témoigner à nos collègues de travail, à nos amis, à nos frères et à nos sœurs. On ne sait pas quel impact. Mais est-ce que c'est ça qu'on doit se soucier? Est-ce qu'on doit se soucier de quel impact on peut avoir, on aurait? Ça, ce n'est pas le problème de Dieu, puisque c'est le Saint-Esprit qui convainc. Peut-être que notre job à nous, c'est juste de répondre opportun, là où Dieu nous dit, c'est le moment, vas-y, témoigne. Je te l'ai mis devant toi. Des choses simples. Voici celui qui m'a dit ce que j'ai fait. Et les hommes et les personnes, les habitants de la ville étaient là, ils ont écouté, ils étaient surpris de ce témoignage, de dire déjà, elle, qu'on regardait mal, elle prend le courage de nous révéler et de nous parler à voix haute. On aurait pu dire, non mais elle est folle, elle est complètement insensée. Mais ça a tapé la curiosité des habitants de Sichar, de telle sorte que du coup, ils sont partis voir Jésus. Au-delà de nos conceptions, nous, on serait là avec le plan parfait. Ah oui, et si je dis ça comme ça, et si je parle comme ça, et si je lis comme ça, si je fais cette structure comme ci, comme ça, ah ouais, j'aurais plus de chances de la convaincre. J'aurais plus de chances d'attirer l'attention, la curiosité. Mais elle, c'était juste pas ça. Elle, c'était la simplicité. Elle parlait d'un événement qu'elle a vécu. Et les autres, et tout le reste, c'était Dieu qui a fait. Ensuite, ils ont tous écouté Jésus-Christ. Ils ont tous été convaincus. Verset 30. Ils sortirent de la ville, c'est les habitants, et ils vinrent vers lui. Versets 40 et 41. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole et disaient à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Au début, c'est à cause d'elle qu'ils ont cru. Ensuite, chacun a vécu sa propre expérience et ils ont fini par croire. Quoi ? Qu'il est le sauveur du monde. Et ça, c'est la chose la plus importante. Si on regarde un petit peu tout ce qui s'est passé, on parle d'un simple entretien entre Jésus et une femme samaritaine. De la femme samaritaine, on a touché un peuple, Sichar. Les habitants de Sichar. Et si on regarde encore beaucoup plus loin, parce qu'en fait, c'est au-delà de cela, ça a déjà préparé le terrain pour l'arrivée de l'évangéliste Philippe. Acte 8. Philippe arrive, il prêche l'évangile, Jésus-Christ, mort, crucifié, ressuscité, et il y a un réveil spirituel qui se passe en Samarie. Nous, on est là et on conçoit juste les choses de manière très petite, mais l'intelligence de Dieu, la sagesse de Dieu, elle est bien au-delà de nos conceptions. Et ça, je pense qu'il faut qu'on arrive à se dire, Seigneur, ta volonté, moi, je veux juste rentrer dans ton plan, dans les circonstances que tu m'invites à être, à faire les choses que tu me demandes à faire sans penser et à juste obéir. Obéir à quoi ? À nous serons tes témoins. Obéir à quoi ? À nous prierons. Car nous sommes appelés à ça, sans réfléchir du résultat. Parce que ça, c'est entre les mains de Dieu. Nous faisons les choses que Dieu nous a demandées. Prions, témoignons, servons-le. Témoigner, c'est aimer. Témoigner, c'est aimer. C'est aimer Dieu. Parce que lorsqu'on témoigne, on le met en valeur. C'est le personnage principal de notre histoire. Et on est en train de dire, Dieu, tu es fort, grand et puissant. Et on est en train de présenter la personne la plus importante de notre vie. C'est celui qui peut te sauver. C'est celui qui peut te consoler, toi qui passes par l'épreuve. Toi qui as besoin du salut. Il est celui qui est fidèle. On honore Dieu. On lui rend toute la gloire qu'il faut. Témoigner, c'est aimer Dieu. Témoigner, c'est aussi s'aimer. Parce que dans les moments les plus difficiles de notre vie, on a besoin de se rappeler, de se témoigner à nous-mêmes à quel point Dieu a été bon dans notre vie, à quel point Dieu a été fidèle dans notre vie, dans telle circonstance difficile, dans telle épreuve, dans telle maladie, dans telle incompréhension, Dieu a été fidèle. Pourquoi ne le serait-il pas encore dans ma situation actuelle ? Et qu'au regard de l'amour de Dieu qu'il a à mon égard, lui qui m'a créé, lui qui m'a aimé, alors je suis en capacité aussi de m'aimer. Témoigner, c'est aussi s'aimer. Et témoigner, c'est aussi aimer le prochain. Lui qui a besoin d'une parole, d'une consolation. Lui qui a besoin d'édification. Lui qui a besoin du salut pour ceux qui ne croient pas. Et souvent, on est là à retenir, oui, non, mais mon témoignage, il est petit, je n'ai pas vécu grand-chose. Mon témoignage de rencontre avec Jésus-Christ, ce n'est pas grand-chose. J'ai juste dit un jour, je veux donner ma vie à Jésus. Et on méprise. On méprise les petits miracles, les petites choses que Dieu nous a accordées. Alors qu'en fait, que tout ce que Dieu fait, c'est incroyable. Vous savez, j'ai vu le baptême d'une adolescente. Elle avait 16 ans, je crois. Et lorsqu'elle a rendu témoignage pour son baptême, je l'ai raconté aux jeunes, je vous le raconte ce soir. Elle n'a pas dit grand-chose. Elle a dit, avant, je ne connaissais pas Dieu. Je n'étais pas une bonne fille. Ensuite, j'ai rencontré Dieu et je suis mieux. Elle avait déjà tout dit. Elle n'a pas raconté peut-être ses mésaventures ou quoi que ce soit. Mais de ses 16 ans, de sa timidité et de tout ce qu'elle était, elle a rendu ce témoignage à la gloire de Dieu. De telle sorte qu'aujourd'hui, encore je m'en souviens, alors que ça fait des années et des années. Vous imaginez ? Tout pour la gloire de Dieu. Qu'on puisse bannir la crainte. Qu'on puisse bannir la timidité. Qu'on puisse bannir le « quand dira-t-on ?» Qu'on puisse bannir toutes ces choses dans nos têtes qui font qu'on ne saisit pas l'occasion de parler de Dieu ou de ce que Dieu a fait dans notre vie ou de qui est Dieu. Parce que le personnage le plus important, c'est toujours Dieu. Dieu dans notre vie. Non, mais je peux pas. Oh, je me sens pas, je suis fatigué. Jésus était fatigué quand il a parlé à la femme samaritaine. C'est pas les bonnes circonstances. Ce sera jamais les bonnes circonstances parce que l'ennemi sera toujours là. Alors qu'on puisse considérer ce Dieu grand au-delà de nos conceptions, au-delà de nos forteresses, de nos raisonnements, de ce qu'on peut faire. Parce que Dieu, avec 5 pains et 2 poissons, fait des choses incroyables. Avec un témoignage qui n'est pas un témoignage physique de multiplication ou de guérison. Dieu a suscité un réveil en Samarie de tout un peuple. Or qu'on puisse prier et de dire « Seigneur, sers-toi de moi dans mon lieu de travail, dans ma famille, dans mon foyer ». Dans les réunions de prière, chaque occasion que l'on peut, on entend souvent des sujets de prière, mais qu'on puisse aussi partager beaucoup plus même de ce que Dieu a fait dans notre vie. Merci Seigneur pour la porte qui a été ouverte par rapport à ça. Merci pour les examens. Merci pour... Des fois, on a peut-être même tendance à garder les bénédictions pour nous, comme si en fait les bénédictions étaient vraiment que pour nous. Les bénédictions que Dieu nous accorde, c'est pas pour nous, c'est pour Dieu, pour les autres. Pour que les autres soient encouragés. Ah, tu es passé par cette situation. Ah, mais je me sentais seul un petit peu. Mais maintenant que tu en parles, je me sens moins seul. Qui sait en fait quel impact on peut avoir juste en parlant de ce que Dieu a fait dans notre vie. Alors que Dieu nous aide, ce n'est pas un esprit de timidité ni de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, de sagesse et d'amour. Pour qu'on puisse être cette lumière du monde. Et témoigner de l'amour du Christ, non seulement aux non-croyants, mais même parmi nous, pour qu'on puisse être encouragé et même prier encore plus et encore plus et encore plus, pour qu'on puisse voir encore ces choses. Et on l'a chanté, je bénis Dieu encore pour ce chant, que ces lieux soient visités par l'action de ton esprit, que ces lieux soient visités par le vent de ton esprit, que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit. Alors que ces lieux de Toulouse-Ouest soient les témoins de l'action du Saint-Esprit dans baptême du Saint-Esprit, des renouvellements dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas des petits témoignages, C'est l'action de Dieu incroyable au sein de son peuple. Tout pour la gloire de Dieu. Que Dieu nous aide à saisir ces occasions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur mon Dieu, pour cette rencontre que tu as faite, Seigneur mon Dieu, avec la femme samaritaine. Et Seigneur mon Dieu, on n'a peut-être pas forcément tout vu, mais c'était juste cet entretien qui était le début de quelque chose d'incroyable, Seigneur mon Dieu. Et nous voulons être là aussi et être considérer ton œuvre, Seigneur mon Dieu, à Toulouse-Ouest, là où tu nous as placés, pour être cette lumière dans ce quartier, dans cette ville, Seigneur mon Dieu, pour nos amis, nos collègues de travail, nos membres de la famille, et même les frères, les sœurs, Seigneur Jésus. Et je te prie afin qu'on puisse aller au-delà de nos limitations humaines, nos conceptions humaines qui nous limitent, Seigneur mon Dieu, pour te rendre gloire, Seigneur Jésus, des choses que tu as faites dans notre vie, Seigneur mon Dieu, soi-disant petites, soi-disant peut-être méprisables à nos yeux, Seigneur mon Dieu. Mais qui sommes-nous pour juger, évaluer, Seigneur mon Dieu, les choses que tu as faites dans notre vie, Seigneur mon Dieu? Nous voulons te rendre gloire parce que c'est toi qui es l'auteur de la vie, l'auteur des choses que nous vivons encore chaque jour, Seigneur mon Dieu. Et nous voulons vraiment te prier afin que tu nous aides à porter ta parole, nous aides à porter ton amour, nous aides à porter ta miséricorde, Seigneur Jésus. Viens nous aider, Seigneur mon Dieu, à vivre, Seigneur mon Dieu, cette culture, Seigneur mon Dieu, du témoignage du Christ sauveur, du témoignage du Christ qui guérit, témoignage du Christ qui baptise du Saint-Esprit, Seigneur mon Dieu. Nous ne voulons pas maîtriser, Seigneur mon Dieu, chaque chose, Seigneur mon Dieu, comme peut-être ce peuple hébreu qui méprisait peut-être la manne, Seigneur mon Dieu, qui tombait du ciel, Seigneur mon Dieu, cette petite chose qui les nourrissait jour après jour. Nous ne voulons pas mépriser cela, Seigneur mon Dieu. Non, nous voulons considérer la grandeur de notre Dieu qui porte son regard sur chacun d'entre nous. Éternel Dieu, viens nous aider à être cette lumière du monde, viens nous aider à dépasser nos limites, viens nous dépasser à dépasser notre intelligence, à dépasser notre conception des choses, Seigneur. Nous voulons être cette lumière, ce flambeau, Seigneur Jésus. Nous voulons être en bénédiction pour nos frères, pour nos sœurs et pour notre prochain. Seigneur, viens nous aider, je t'en supplie, Père, au nom de Jésus. Amen.